Réplique, islam, islamisme, islamophobie, avec Rokhaya Diallo et Tahar Benjelloun. Fin juillet, alors que l'émotion soulevée par le massacre de Nice et par l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray était à son comble, une affiche commença à circuler sur les réseaux sociaux pour annoncer une journée réservée aux femmes en burkini et djibeb de bain dans un parc aquatique des Bouches-du-Rhône. Le tollé provoqué par cette annonce a conduit à l'annulation de l'événement. Le 28 juillet, David Lisnard, le maire de Cannes, a pris un arrêté contre les costumes de bain intégraux et ostentatoires, suivi en quelques jours par une trentaine de maires, essentiellement dans le sud de la France et en Corse. Le 26 août, le Conseil d'État, saisi par la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France, a annulé l'arrêté pris à Villeneuve-Loubet au motif qu'il n'y avait pas, en l'occurrence, trouble à l'ordre public. À mes deux invités, la journaliste et réalisatrice Rokhaya Diallo et l'écrivain Tahar Benjelloun, je voudrais d'abord demander quelle réflexion leur inspire cet épisode politico-judiciaire. Rokhaya Diallo.
Eh bien, la première des choses, c'est la manière dont les réseaux sociaux peuvent avoir une incidence extrêmement importante à la fois sur le débat public et sur les décisions politiques, parce que ce qui est arrivé en premier lieu, c'est la diffusion de cette affiche sur un événement qui avait lieu dans un parc aquatique, donc quelque chose d'extrêmement local, qui a été diffusé notamment avec l'appui des réseaux identitaires, donc plutôt très à droite, avant de devenir effectivement de motiver la décision d'un maire qui a, par sa décision, alimenté d'autres décisions analogues, d'autres mairies plutôt classé à droite pour la majorité. Et puis le Premier ministre a fini par se positionner en faisant de ce qui n'était qu'un vêtement de plage le symbole d'un combat qu'il souhaitait mener au nom de la République. Donc moi je trouve effectivement que cet incident est absolument regrettable, parce que quelque chose qui aurait pu rester anecdotique est devenu un débat national. Je rappelle quand même que le burkini, c'est un vêtement en fait qu'on peut porter à la plage et qui peut être absolument analogue il y a des femmes qui ne se rendent pas nécessairement à la plage avec des maillots de bain et avec des vêtements qui sont également couvrants et qui ne sont pas nommés burkini. Et puis l'autre regret que je souhaite exprimer, c'est celui qui est relatif aux femmes, et je parle en tant que femme parce que j'ai le sentiment qu'en fait quoi qu'il arrive, dès lors que ce type de débat atteint les sphères nationales, c'est toujours le corps des femmes qui est en débat. Donc, ce sont des hommes, majoritairement, des maires, le Premier ministre, des instances institutionnelles qui ont commenté, qui ont invité des femmes à se vêtir de telle ou telle manière pour respecter un ordre qu'on attribue à la République et qui d'ailleurs a été démenti par le Conseil d'État. Donc je regrette en fait que la liberté des femmes finalement à disposer de leur corps ait été au centre du débat sans qu'elles mêmes ne soient les premières interlocutrices de ce débat.
Oui, mais on pourrait vous répondre que des femmes, pas toutes, les féministes sont très divisées, mais des femmes ont pris parti contre le burkini. Je pense à Blandine Krigel dans le Figaro, et aussi à la juriste Noëlle Lenoir, qui explique que l'ordre public ne peut pas être limité à la sécurité, que pour elle, il doit pouvoir se référer à nos valeurs constitutionnelles, et parmi ces valeurs essentielles, il y a, dit-elle, l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle rappelle aussi l'arrêt Morsan-sur-Orge à propos de l'interdiction de lancer de nains, que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public, et le lancer de nains était soutenu par un certain nombre de nains eux-mêmes qui y trouvaient un gagne-pain. Donc il y a des femmes qui se sont mobilisées contre le burkini au nom de l'égalité entre les sexes, Rokhaya Diallo.
Alors moi, je trouve ça assez vertigineux d'entendre des femmes prétendre lutter pour l'égalité, en tout cas pour la liberté d'autres femmes, en leur interdisant d'accéder à la possibilité de se baigner en public. Moi, je me considère également comme une féministe et je pense que la première des libertés que nous avons gagnées grâce à nos aînés, celle de disposer librement de notre corps. Moi, je ne porte pas le burkini, mais je me bats pour que des femmes puissent faire des choix qui ne sont pas les miens. Je ne veux pas que tout le monde me ressemble.
Tarben Jeloun.
Oui, c'est une question effectivement de liberté. Alors, il y a pire que les burkinis, il y a les femmes qui, en tout cas au Maroc, qui se baignent tout habillées avec caftan, djellaba et tout, ce qui est très incommode pour elles-mêmes d'ailleurs, pendant que leur mari, en maillot de bain tranquille, jouit de tout le confort et des plaisirs de la baignade. Et là, nous avons affaire à quelque chose intermédiaire entre une femme topless et une femme en djellaba. Et puis, entre les deux, il y a le burkini, sur lequel je pense qu'on a fait beaucoup de bruit, parce que c'est arrivé en un moment où il y avait une très grande tension en France. Tout le monde était à cran, parce qu'il y a eu quand même des massacres, il y a eu des choses horribles, et que c'est arrivé comme ça. Et je pense que il y a eu une espèce de nervosité qui était inutile. Après tout, c'est vrai que c'est plus agréable qu'une femme qui va à la plage se porte un maillot comme les autres. Mais là, c'est par cet habillement, elle veut signifier quelque chose d'autre que le fait simplement d'être libre de son corps. Je pense que tout ça, ça a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus graves à discuter à ce moment-là.
Mais quand vous dites beaucoup de bruit pour pas grand-chose, Tarben Jeloun, je trouve que vous entrez un peu en contradiction avec ce que vous avez écrit dans Le Monde, un article publié le 29 juillet.
C'était après le massacre
oui.
Du prêtre, oui.
Et vous dites, par exemple, « Nous devons renoncer à tous les signes provoquants d'appartenance à la religion de Mahomet. Nous n'avons pas besoin de couvrir nos femmes comme des fantômes noirs qui font peur aux enfants dans la rue. » Et je rappelle que le Conseil d'État s'était prononcé contre l'interdiction de la burqa. J'ai retrouvé dans mes papiers par miracle un article du Monde, une première page du Monde datée du mercredi 31 mars 2010, première page triomphante, l'interdiction générale de la burqa est contraire au droit et le Conseil d'État se fondait précisément sur un avis remis le 30 mars 2010 par le Conseil d'État, ce qui a conduit à l'élaboration d'une loi interdisant la dissimulation du visage en public. Donc, on peut être fondé à penser qu'il y a malgré tout, comme son nom l'indique, un lien entre la burqa et la burkini, la même idée que c'est, les femmes, dès lors qu'elles se montrent un peu, sont obscènes et donc doivent être dissimulées au regard dès lors qu'elles sortent de chez elles.
Oui, disons, enfin, c'est une version light de la burqa, mais moi, j'ai pas du tout, j'étais d'accord avec le Conseil d'État qui n'avait pas donné l'accord pour cette loi, parce que la burqa, d'abord, elle n'existe pas dans l'islam, elle n'existe pas dans le Coran, nulle part. Alors, il faut quand même qu'on revienne un peu aux sources et rappeler que dans tout le Coran, et quand même 60 chapitres, il existe trois versets seulement qui parlent du voile. Et qui n'a rien à voir avec la burqa, ni les burkini, ni rien. Je me permets de lire le verset le plus important parce que il est très court. Et c'est dans la sourate 33, le verset 59. C'était au moment où les femmes sortaient le soir pour faire leurs courses parce qu'il faisait très chaud. Et elles étaient évidemment habillées, les cheveux en l'air. Enfin, elles n'étaient pas du tout couvertes. Elles sortaient le soir pour faire leurs courses et elles étaient harcelées par des hommes qui les prenaient pour des prostituées. Alors, l'une des femmes est allée se plaindre au prophète et là, le verset est arrivé. Le verset est le suivant. « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de serrer sur elles leur voile. Cela sera le plus simple moyen qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient point offensées. » En fait, le voile est parti de là. Un peu plus loin dans l'histoire va arriver un autre verset dans la sourate La Lumière, verset 59. Eh bien, il dit « À la ménopause, les femmes doivent ou peuvent déposer leur voile. » Il n'y a pas d'obligation, c'est un conseil. Donc, simplement, il faut être décente. C'est-à-dire qu'une femme doit être décente quand elle sort, quand elle va prier, quand elle va à la Mecque, elle n'a pas à être provocante sensuellement. C'est ça l'origine du voile. Mais, il faut dire autre chose, avant l'arrivée de l'islam, les Bédouins avaient des habitudes et des coutumes qui étaient de couvrir les femmes totalement, d'enterrer les filles vivantes. Et c'est l'islam, quand il est arrivé, qui a interdit cette pratique barbare parce que l'islam de Mahomet est arrivé pour dire « Mais enfin, les femmes doivent vivre librement comme n'importe quel être humain. » Et c'est ça qui a fait qu'il y a une confusion aujourd'hui entre ce qu'il y avait avant l'islam, c'est-à-dire toute la partie bédouine, et puis ce qui est arrivé après avec l'islam. Et je termine en rappelant dans le harem et le cousin de l'extraordinaire Germaine Tillon, elle a écrit un texte formidable sur justement l'origine de tout cela et sur la relation de parenté qui, bien avant l'islam, il y avait des coutumes et des traditions qu'on a attribuées après à l'islam et qui n'étaient pas dans l'islam.
Mais alors, vous en concluez quoi?
J'en conclue que l'islam, on lui met dessus tout ce qui est finalement horrible. C'est-à-dire que on fait passer la burqa pour un objet islamique, on fait passer dans l'islam espèce d'obsession de la femme chez les hommes, qui veulent voiler la femme, qui veulent la cacher, qui veulent la nier, qui veulent la dominer, etc. C'est pour ça que ça relève beaucoup plus des coutumes et des traditions
ancestrales
des hommes, oui, des hommes. Et l'islam est venu bien après.
Oui, mais l'islam épouse ces traditions.
Certains musulmans ont épousé ces traditions, mais les textes islamiques ne l'épousent pas du tout, parce qu'il n'y a nulle part l'existence de mot burqa dans l'islam.
Je ne souhaite pas m'engager dans un débat théologique parce que j'ai le sentiment qu'on a tendance systématiquement à mobiliser le Coran pour analyser le comportement religieux de telle ou telle personne. On est dans un pays qui est laïque, un pays dans lequel le Coran n'a pas de valeur juridique, donc je crois qu'il est important de revenir à ce qui fait droit et à ce qui fait loi, à savoir par exemple, vous avez évoqué des personnes... des femmes qui s'opposaient au port de certaines tenues islamiques. Je tiens quand même à rappeler que le premier article de notre Constitution dit que la République respecte toutes les croyances. Et respecter les croyances, c'est aussi respecter les manifestations de ces croyances.
Donc c'est respecter la burqa, à votre avis?
C'est respecter les croyances. Moi, j'étais opposée à la loi interdisant le port du voile intégral dans la rue. J'y étais opposée, je trouvais que ça ne faisait pas sens. Et d'ailleurs, il n'était pas possible de faire voter cette loi au nom de la laïcité. Ça n'a pas été rendu possible parce que c'était contraire au principe des droits de l'homme et aux principes auxquels nous avons souscrit.
Alors, quand même, là, je voudrais vous interpeller peut-être, parce que j'ai lu dans Le Monde Magazine, il y a quelques mois, un article très intéressant sur les femmes en pays musulmans. Et cet article nous disait qu'en Iran, des femmes publient à leur risque et péril des photos d'elles tête nue sur une page Facebook intitulée « My Stealthy Freedom ». Ma liberté furtive. Et interrogé par Le Monde sur les musulmanes en Europe qui se radicalisent dans la tradition et choisissent de porter le voile, une Égyptienne répond ceci. Et je voudrais soumettre cette réponse à votre réflexion, Rokhaya Diallo. Parce qu'elles ont le luxe de vivre dans un pays libre, elles font le choix de moins de liberté. Elles utilisent quelque chose qu'elles ne comprennent pas pour leur propre confort identitaire, sans voir à quel point ce symbole fait mal ailleurs. Il s'agit ça du voile, mais a fortiori, peut-on le dire, pour le voile intégral. Et en philosophie, on sait aussi, depuis la Boétie, depuis Spinoza, ce que c'est que la servitude volontaire. Le voile intégral me semble quand même relever de la servitude volontaire.
Il me semble que l'objet du débat n'est pas le voile intégral. Il a été interdit en 2010. Depuis 2011, il n'est plus légal de le porter à l'extérieur. Donc je pense que le débat aujourd'hui n'est pas celui-là. Le burkini, ce n'est pas un voile intégral. C'est une tenue qui couvre l'intégralité du corps, comme une combinaison de surfeurs, et qui est sertie d'un couvre-chef. Donc c'est pas quelque chose qui masque le visage. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la burqa. C'est le nom qui peut prêter à confusion, mais la tenue en elle-même, finalement, n'est pas très distincte de celle des personnes qui peuvent effectuer de la plongée sur les plages. Pour répondre à cette personne, donc il s'agit d'un individu, hein, une femme égyptienne, moi je soutiens toutes les femmes qui se battent pour pouvoir disposer de leur corps comme elles l'entendent, qu'elles soient en Iran ou en Afghanistan lorsqu'elles veulent se dévoiler, ou qu'elles soient en France quand elles veulent faire autre chose que se dévoiler. C'est-à-dire que Je connais de nombreuses Françaises qui souhaitent, de leur propre chef et parfois en opposition avec leur famille, porter un foulard sur les cheveux. Je ne vois pas pour quelles raisons on les empêcherait de circuler, de travailler, de profiter des espaces publics en se baignant sous prétexte qu'elles portent un morceau de tissu sur les cheveux. Il y a de nombreux pays où ces femmes peuvent travailler sans que ce soit un problème. Et lorsqu'on invente la question de l'égalité femmes-hommes, je trouve qu'on a tendance à porter un regard ethnocentré sur ce signe de distinction entre femmes et hommes. On vit quand même dans un pays où les hommes et les femmes ne se vêtissent pas de la même façon. En tant que femme, je vais acheter mes vêtements dans un magasin qui est estampillé pour femmes. Je porte des robes, je porte des jupes que les hommes ne portent pas. On est dans une société qui fonde, en tout cas, le vêtement sur des marqueurs sexistes et sexués. Et cela n'est jamais remis en question. Donc, moi, je veux bien qu'on s'engage sur une réflexion sur la manière dont les hommes et les femmes sont distingués, une manière qui parfois est inégalitaire, puisque on peut prendre un autre exemple. Le talon haut, le talon aiguille, est une chaussure qui est extrêmement douloureuse pour en avoir porté. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, quelque chose qui est douloureux. Et pourtant, de nombreuses femmes se soumettent au port de cette chaussure sous prétexte d'esthétisme, parce que ça fait un joli galbe au mollet.
On est loin du débat, parce que...
Non, je me permets, vous avez parlé assez longuement, oui. J'aimerais bien poursuivre mon idée, je ne vous ai pas interrompu, je pense que vraiment j'aimerais bien terminer, parce qu'en plus, je suis la seule femme autour de cette table, et je pense que je suis probablement la seule personne qui ait passé quelques soirées en portant des talons hauts, avec des pieds douloureux en fin de soirée. Est-ce que là, on peut parler de servitude volontaire, ou lorsqu'une femme décide, pour des raisons de canon esthétique qui sont promues par les magazines féminins, de se soumettre au bistouri d'un chirurgien, quitte à risquer sa vie, hein, parce qu'on a vu des cas avec les prothèses PIP, les prothèses mammaires, pour transformer son corps avec des prothèses mammaires, transformer son visage parce qu'elle est actrice et doit ressembler, doit avoir l'air jeune, etc. Est-ce que dans ce cas-là, ces femmes qui se soumettent à des risques de santé, est-ce qu'on peut parler de servitude volontaire? Est-ce que ces féministes qui s'insurgent contre le voile, est-ce qu'on les entend? Lors du scandale, par exemple, des prothèses PIP, qui a été un scandale, donc sont des prothèses mammaires qui ont engendré des problèmes de santé pour de nombreuses femmes, un vrai problème de santé publique, on n'a pas entendu ces féministes nous dire que notre société était une société extrêmement oppressante pour un certain nombre de femmes qui désiraient ressembler à un canon qui était vendu par des marques, par des magazines, etc. Donc, moi, je veux bien qu'on réfléchisse sur la servitude, mais qu'on inclue tous les critères et qu'on ne se résume pas à ceux qui sont associés à une culture particulière.
Non, je voulais juste rappeler que pour ce qui est de la burqa, c'est...
On ne parle pas de la burqa, on parlait du burkini, c'est pas la même chose. La burqa est interdite et oui, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Moi, je parle
Anna
du foulard, un foulard simple sur les cheveux.
En tout cas, moi, je reviens à la burqa parce que c'est un signal idéologique qui veut dire quelque chose de très précis chez certaines personnes et c'est une provocation à un mode de vie et à un pays où la laïcité est vraie, est là, elle respecte toutes les religions, sauf que je considère que lorsqu'on se voile de haut en bas et qu'on ne voit rien, ni le visage...
C'est pas l'objet
rien,
du débat, le burkini ne voile pas le
non,
visage.
Non, mais je parle de la burqa.
Mais pourquoi et que, c'est interdit
et que je termine...
Oui, c'est interdit, mais vous regrettez cette interdiction et vous mettez sur le même plan le port du voile intégral et le port du talon aiguille. Il est assez légitime qu'il vous ait répondu, Rokhaya Diallo.
Non, je parlais du hijab. Je parlais des femmes en foulard qui ne pouvaient pas travailler parfois en France.
Non, parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le problème du corps de la femme chez certains musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. Ce corps de la femme est le principal objet de fixation de beaucoup d'hommes. C'est pour cela qu'on cherche à ce que ce corps ne s'exprime pas, qu'il ne se dévoile pas et qu'il ne soit pas libre. Alors on le cache. Et c'est dans ce sens-là que moi j'approuve l'interdiction du port intégral, enfin d'un burqa intégral. Voilà. Et je pense que c'est assez clair chez moi, dans la mesure où c'est par respect justement de la liberté de la femme qu'il
faut qu'elle... On leur interdit d'être libre de porter la burqa.
Oui, mais alors justement, la liberté, oui. Je vais vous interroger sur la liberté, parce qu'il est vrai que des deux côtés, on invoque la liberté de conscience. Mm-hmm. Mais cette liberté va de pair en Occident, donc chez tous ceux qui l'invoquent, avec la possibilité de quitter sa religion, de n'avoir pas de religion, et surtout avec la possibilité pour une femme, d'épouser un non-musulman. Mmh. Ce qui frappe un certain nombre de gens, ce qui explique leur gêne éventuel devant ces signes ostentatoires, c'est outre l'éventuelle manifestation de servitude, l'affirmation d'un rejet ou d'une barrière. Il y a deux mondes, et ces deux mondes ne doivent pas se mélanger. Donc, pensez-vous que la liberté de conscience, recueillir Diallo, doivent aller jusqu'au droit pour tout musulman de quitter l'islam ou de ne pas suivre ses prétextes et d'accepter que les musulmanes puissent épouser des non-musulmans. Est-ce que vous pensez que c'est une exigence que l'on doit formuler à l'égard de l'islam et que cette exigence puisse aller jusqu'à une discussion sur les manifestations qui vont très clairement à l'encontre de cette liberté.
Rokhaya Diallo. Première chose, je ne vois pas en quoi le fait de porter un signe religieux envoie un message de non-mixité. Et moi, je peux vous donner un exemple. J'habite dans un quartier populaire parisien. Ma boulangère porte un foulard. Elle me vend des baguettes françaises. On interagit. Elle interagit avec des clients d'autres origines. Enfin, il n'y a pas dans sa manière d'être vêtue une barrière qui incite uniquement les musulmans à aller lui acheter des pâtisseries ou des, comment dire, la nourriture de boulangerie. Moi, je suis pas islamologue. Je n'ai pas vocation à légiférer sur l'islam. Évidemment, je suis favorable à ce que tous les musulmans puissent quitter leur religion, puissent changer de religion, devenir agnostiques, athées, etc. et se marier avec qui bon leur semble. Mais c'est le cas pour toutes les personnes, quelle que soit leur religion. Et c'est une liberté qui, pour moi, est fondamentale dans ce que promet aujourd'hui la France. Moi, j'ai été un petit peu interpellée par donc la tribune de M. Benjelloun que j'ai lue effectivement cet été, par cette manière, en fait, dont vous dites nos femmes. Parce que vous dites, on va voiler nos femmes comme si ces femmes étaient dépourvues de volonté et étaient objetisées comme des individus, en fait, sans capacité à décider. Moi, je connais beaucoup de femmes qui, elles-mêmes, ont décidé de porter un foulard, qui sont des femmes dont certaines sont docteurs, sont des intellectuelles, et ont fait ce choix elles-mêmes, parfois même en opposition avec leur père, avec leur compagnon. Et c'est vrai que je regrette en fait que ces femmes-là, souvent, n'aient pas de voix. Moi, je parle aujourd'hui en étant une femme qui n'est pas voilée, mais j'aimerais bien entendre davantage ces femmes nous expliquer pour quelles raisons elles ont pris cette décision-là, parce que je suis convaincue du fait qu'il y a énormément de raisons différentes de décider en fait de se vêtir de cette manière-là. Et je pense qu'on ne peut pas donner le même sens au port du foulard, puisque M. Finkielkraut tout à l'heure parlait de femmes égyptiennes ou iraniennes, je crois.
Iranienne et égyptienne.
Je pense pas qu'on puisse donner le même sens au port d'un vêtement religieux dans une théocratie autoritaire où les femmes n'ont pas le choix que dans un pays laïque comme la France où la liberté de conscience est consacrée au premier article de la Constitution. Pour moi, ça n'a aucun sens de comparer deux pays dont deux officiellement ne reconnaissent pas les droits humains fondamentaux alors que le nôtre, justement, a des ambitions totalement inverse. Je crois qu'aujourd'hui, l'aspect positif de la France, c'est que justement, on est divers, on est un pays multiculturel et on peut cohabiter en faisant des choix totalement différents.
Alors, justement, pour ce qui est de la liberté de conscience, comme je le rappelle dans mon petit livre, Le terrorisme expliqué à nos enfants, j'ai dit que le seul pays musulman, à vocation musulmane du moins, qui a eu le courage d'inscrire dans la Constitution ce choix extraordinaire qui est la liberté de conscience, c'est la Tunisie. Sinon, aucun pays arabe actuellement et musulman n'a inscrit la liberté de conscience dans sa constitution. Au Maroc, il y a eu des débats pendant très longtemps, en 2011, lorsqu'il y avait la nouvelle constitution, et finalement, ce sont les islamistes qui ont gagné. Alors, même nous sommes en France. Moi, je milite pour une appartenance républicaine dans ce pays, et par conséquent, un pays laïque. Et la laïcité veut dire respect des religions, à condition que la religion reste dans la sphère privée. Alors, et à partir du moment où on est un pays laïque, la liberté de conscience, on l'a. C'est-à-dire qu'on peut être croyant n'importe quelle religion, on peut aussi quitter cette religion dans ce pays sans encourir la peine de mort, comme ça existe en Arabie Saoudite ou d'autres pays où le wahhabisme sévit. Donc, faisant de l'islam de France une forme aussi de liberté qui fait qu'il peut tout à fait coexister et cohabiter avec un pays qui n'est pas religieux, qui est laïque, comme la France, où on peut choisir d'être musulman ou de ne pas être musulman, que la femme puisse épouser un non-musulman sans que ça soit un scandale ni un interdit, etc., etc. Donc, c'est ça, faire l'islam de France, c'est-à-dire s'adapter au contexte et aux valeurs de la République dans laquelle nous vivons. C'était le sens de mon appel, qui était un appel évidemment assez véhément, assez instinctif. Mais ce que je veux dire, on est en France, nous avons la chance d'être dans un pays où il y a la liberté réelle d'expression, la liberté de se mouvoir, la liberté de parler, de faire tout ce qu'on peut. Et alors, soyons, pour ceux qui tiennent compte de ce contexte, qui est une chance pour nous. Parce que je ne vais pas compter sur l'Arabie saoudite pour que l'islam devienne autre chose qu'il l'est aujourd'hui. Parce que l'islam ne changera jamais, mais ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui devront changer leur attitude, leur comportement, leur façon de vivre leur religion. Parce que les types restent en Arabie saoudite avec le wahhabisme qui coupe les mains des voleurs et qui lapide les femmes adultères, ça c'est leur problème. Je ne suis pas d'accord avec cette vision de la vie. Mais à partir du moment où on choisit de vivre dans un pays laïque comme la France, eh bien, on profite des valeurs de ce pays et on les célèbre même. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui prend les armes aujourd'hui contre ce pays, contre son mode de vie, ben je trouve que c'est une chose absolument inadmissible et horrible, intolérable.
Je pense que nous sommes tous d'accord autour de la table pour dénoncer effectivement l'horreur des tragédies qui ont frappé le pays ces dernières années. Ceci dit, quand vous parlez de choisir d'habiter en France, je pense que ça ne s'applique pas à de nombreux musulmans qui sont nés en France et qui n'ont pas fait le choix d'être ici puisqu'ils sont nés dans un pays qui est le leur. Vous évoquez des pays musulmans à raison qui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ne respectent pas les droits humains, mais il y a des pays à majorité musulmane, je pense par exemple à un pays comme le Sénégal, qui sont des pays absolument laïques. Le premier président du Sénégal était Léopold Sédar Senghor et c'était un homme qui était catholique alors que le pays est un pays à 95% musulman et c'est un pays qui est laïque, qui a inscrit la laïcité dans ses idéaux. Donc je pense qu'on ne peut pas réduire l'islamité en fait à ces quelques pays qui ne respectent pas...
Je parlais des pays arabes, oui. Pas des pays africains.
Oui, non, parce qu'on parlait de pays à majorité musulmane.
Je sais comment...
Voilà, c'est un exemple que je voulais donner, oui. Puis après on pourrait parler de l'Indonésie ou d'autres pays, mais voilà. Alors la laïcité, c'est deux choses. C'est la séparation entre l'État et les églises et c'est le fait que l'État ne reconnaisse pas de culte et n'en favorise pas. Effectivement, l'État garantit la liberté de conscience, la liberté d'expression. Mais je crois qu'on a tendance à confondre sphère privée et sphère domestique. C'est-à-dire qu'effectivement, la religion... alors, il y a une obligation de neutralité qui pèse sur toutes les personnes qui représentent l'État, qui sont agents de l'État, mais cette obligation de neutralité ne pèse pas sur le public, sur les personnes qui vont utiliser les services publics. Et de ce fait, la sphère privée, en fait, c'est pas la sphère domestique. Donc, ce qu'on appelle la sphère privée, c'est pas chez soi, puisque notre sphère privée, elle nous accompagne partout où on est. Donc, si moi, pour une raison X ou Y, je porte un signe religieux, j'ai le droit de le porter dans la rue, si évidemment il ne trouble pas l'ordre public. Oui,
oui, mais j'en reviens au sentiment d'une grande partie des Français non musulmans. Si vous voulez, aujourd'hui, l'islamisme radical, l'islam politique est en position de combat. Ce combat peut prendre la forme paroxystique du terrorisme, mais il y a aussi des prédicateurs comme Youssouf Al-Qaradawi, très célèbre, mufti, référence pour Tariq Ramadan, qui dit « la conquête peut se faire par la prédication et l'idéologie, pas forcément par la guerre ». Et certains en France peuvent penser que cette volonté aussi est à l'œuvre, c'est-à-dire grignoter une partie du territoire, une conquête qui ne serait pas la soumission selon Houellebecq, mais une conquête par en bas. Et on n'a pas parlé du cas de Cisco, mais le cas de Cisco est très intéressant parce que si un arrêté a été pris dans cette petite ville corse, c'est après que des Maghrébins, comme on dit, ont privatisé la plage. Ils ont privatisé la plage et ça a beaucoup choqué et on sait que des incidents violents ont suivi cette décision, ce comportement. Donc, que répondre à une inquiétude comme celle-là ? Est-elle d'ordre purement fantasmatique ?
Non, moi, tout à l'heure, je reviens à une phrase. Tout à l'heure, comme vous avez parlé de ceux qui n'ont pas choisi la France, mais qui sont nés en France. Pour moi, être français, ça a un sens. C'est-à-dire que c'est pas uniquement avoir une nationalité française. Or, le jour où moi j'ai vu des jeunes en Syrie brûler leur passeport français, j'ai dit, mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais été français. Être français, c'est pas uniquement avoir un passeport. C'est épouser les valeurs essentielles, fondamentales de la République, les valeurs que la Révolution française de 89 a mises dans ce pays. Il y a eu des générations de gens qui sont battus pour que nous soyons aujourd'hui libres dans ce pays. Donc, c'est épouser ces valeurs et ce que j'appelle les valeurs républicaines et les célébrer. Et quand je vois effectivement j'entends des prédicateurs ou des gens qui essaient un petit peu de faire passer des messages. On n'est pas là pour faire passer des messages, pour créer un désordre général. Nous sommes dans un pays où la question religieuse a été réglée une fois pour toutes en 1905. Alors, si les musulmans, certains musulmans, évidemment une minorité, n'acceptent pas cette loi, je dis, ils n'ont qu'à partir, même s'ils sont nés en France. C'est-à-dire, naître en France, ça ne veut pas dire uniquement être sur le sol français. C'est aussi être d'accord avec ce qu'est ce pays et ce qu'est sa civilisation et sa culture. Alors, si on est là pour miner ce pays à la base par des discours en disant aux enfants, attention, n'écoutez pas la musique parce que ça va vous rendre des cochons, etc., etc. Enfin, bon, ce sont des choses un peu extrêmes. Mais moi, je trouve que quand on est dans un pays, on respecte, qu'on soit né dans ce pays ou pas, on respecte ses valeurs. Et ce qui est primordial, c'est la liberté de l'être, la liberté de conscience, et puis la célébration des valeurs qui font que nous pouvons vivre ensemble. Si on ne nous respectons pas ces valeurs, eh bien, il y aura une espèce de petite guerre civile larvée avec des attentats par-ci, des attentats par-là, des insultes, des discours fielleux, etc. Donc, il faut que les choses soient claires. Moi, pour ça, j'étais obligé de prendre des positions nettes et claires.
Alors,
Rokhaya Diallo.
Moi, ce que je trouve curieux, c'est que cette injonction puisse être faites en particulier un groupe de personnes dans la République. Il y a effectivement, il faut respecter les valeurs qui fondent le ciment de notre population. Maintenant, c'est pas cette injonction ne doit pas peser uniquement sur les musulmans. Je crois que quotidiennement, il y a de nombreux Français, quelle que soit leur culture religieuse, leurs origines, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les valeurs de la République.
Oui,
eh bien,
oui.
Ils sont sanctionnés, ils vont en prison, oui, ils payent des amendes, etc. Pour autant, on ne remet pas en cause leur citoyenneté, leur appartenance à la nation, dès lors qu'ils ont répondu devant la justice. Pour moi, ce sont des choses différentes. Et je tiens également à rappeler un chiffre que j'ai entendu chez Dounia Bouzard, qui dit que 45% des personnes qui sont radicalisées sont issues de familles qui ne sont pas musulmanes. Donc ça montre bien que c'est un trait qui n'est pas lié à une culture ou à une origine. Et ces gens-là qui sont issus de familles non musulmanes, donc des familles plutôt blanches, sont-ils des Français? Alors, enfin, s'ils sont français,
oui,
depuis plusieurs générations,
okay,
qu'est-ce que ça signifie?
Oui, mais alors ça veut dire peut-être justement que l'islamisme aujourd'hui a une vertu d'attraction, étant une position très offensive, puisqu'il fait des convertis, alors même que l'apostasie est pour le moment impossible pour les musulmans, et c'est une raison supplémentaire d'être inquiet, d'être méfiant, et d'exiger peut-être de la part de tous ceux qui se réclament de l'islam une adhésion réelle à la fois à un certain nombre de principes républicains, mais peut-être aussi aux mœurs qui font le ciment de ce pays.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on les soupçonne a priori de ne pas y adhérer. Je tiens à rappeler quand même que les musulmans sont également victimes des attentats.
Oui,
au Bataclan, à Nice, la première des personnes qui a été renversée par le camion était une femme musulmane.
Oui.
Donc ils sont aussi les victimes. Donc je ne comprends pas en fait pour quelles raisons on les soupçonne a priori d'être solidaires de ces actes-là. Par ailleurs, je tiens quand même à rappeler que la majorité des musulmans n'a absolument aucun lien avec ces attentats et avec le terrorisme. Parce que quand on entend dire que les musulmans doivent montrer des signaux d'adhésion, etc., aux valeurs républicaines, je pense qu'au quotidien, pour toutes les 4 millions, 4 ou 5 millions de musulmans que l'on côtoie au quotidiennement en France, partout dans notre travail, dans les interactions, dans les transports en commun, etc., ce sont des gens qui respectent les valeurs de la République.
Bien
et
sûr.
Toutes les associations musulmanes de France ont toutes exprimé des dénonciations après toutes
bien
les
sûr,
attaques que nous
sûr.
Avons subies ces dernières années. Donc je ne comprends pas en fait ce qu'on attend de plus.
Nous sommes, enfin,
voilà,
nous sommes face à un danger, une attaque globale, parce que là, je vous parlais du cas du Maroc, qui est un pays qui a un islam malikite, c'est-à-dire très modéré, très simple, où on n'a jamais tué personne où on a coupé le bras de personne, etc. Eh bien, nous sommes menacés tous les jours par des individus marocains, musulmans, nés au Maroc, bien sûr, et qui portent les armes pour essayer de tuer d'autres Marocains. C'est-à-dire, c'est un problème qui n'est plus une question d'être en France ou au Maroc. C'est un problème global. Tous les pays sont menacés aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement Alors c'est pour ça que je dis, quand on est menacé, eh bien il faut s'accrocher aux valeurs. Et que font les Marocains aujourd'hui? Ils s'accrochent aux valeurs de leur pays et ils luttent. Tout le monde lutte contre ces individus que le roi du Maroc vient d'appeler des égarés, qui ne sont pas des musulmans. Il a dit en tant que commandeur des croyants. Il a raison. Mais en même temps, pour dire, nous sommes face non pas à un problème franco-français, mais à un problème mondial. Oui. C'est un problème mondial. Et qui a détourné l'islam, qui a détourné cette religion qui est monothéiste, qui est la suite du judaïsme et du christianisme, et qui en ont fait une arme idéologique de meurtre et d'assassinat. Et on ne peut pas se taire. Alors c'est pour ça que lorsque je vois aujourd'hui des jeunes ici, dans ce pays, soit convertis, soit nés ici, soit venus ailleurs, prendre les armes contre ce pays ou d'autres, où ils tuent aussi des musulmans, je sais que les musulmans sont parmi les premières victimes, on le sait. Alors, on doit réagir et être beaucoup plus sévère qu'on l'est actuellement.
Vous avez dit, en effet, les musulmans sont parmi les premières victimes. Mais même Tarek Oubrou a remarqué que nombre de musulmans se sont indignés, mobilisés contre les attentats à partir de ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet. On l'a bien vu au lendemain des massacres du 7, 8 et 9 janvier. Le peuple est descendu dans la rue, mais les quartiers populaires ont brillé par leur absence parce que les caricaturistes de Charlie Hebdo étaient allés trop loin en insultant le prophète. Et certes, ils ne méritaient peut-être pas une punition aussi radicale, mais horrible. On ne pouvait pas les défendre. Et donc, y a aussi cette difficulté-là. C'est-à-dire, peut-on dire, effectivement, que face à l'islamisme, sous toutes ses formes, je parle aussi bien du terrorisme, mais aussi sécessionnisme salafiste ou de la politique conquérante affirmativement telle des frères musulmans, peut-on dire que la majorité des Français sont unis? Y a-t-il moyen justement de constituer aujourd'hui une communauté de destin entre les Français de toutes origines, aussi bien en effet catholiques, protestants, juifs, musulmans et ceux qui ne se réclament d'aucune confession particulière?
Alors moi, je ne sais pas quelle analogie on fait entre quartiers populaires et musulmans. Pour moi, si on me dit que les quartiers populaires ne sont pas mobilisés, et même je ne dispose pas de chiffres, hein, mais si on me dit que les quartiers populaires ne sont pas mobilisés pour manifester le 11 janvier 2015, je ne suis pas capable de dire s'il s'agit uniquement de musulmans. Moi, pour connaître quelques quartiers populaires, ils ne sont pas uniquement composés de personnes qui se revendiquent de l'islam. Et puis, effectivement, si c'est le cas, peut-être que c'est la forme de la mobilisation ne convenait pas à certaines personnes. J'ai pas vraiment les clés pour répondre à cela. Ce que monsieur Tarek Oubrou a remarqué, moi j'ai pas vraiment les clés pour en faire remarque.
J'étais dans cette manifestation, j'ai rencontré plein de copains musulmans, etc.
Et puis, enfin, je veux dire,
on parlait
musulmans,
non plus, il y avait pas une il y a pas un faciès statistique,
il y a pas un faciès musulman, c'est très difficile
oui,
de déterminer.
Oui, je veux dire, moi j'en ai rencontré.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est très difficile de déterminer dans une foule de millions de personnes qui est musulman ou qui ne l'est pas.
Beaucoup d'incidents dans les lycées au lendemain de ces attentats, on a vu ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'était un moment d'intense communion et aussi quelque chose comme une division française qui s'est révélée.
Il y a deux choses,
c'est que
le lycée.
Je rappelle dans le livre qu'il y a eu des écoles où certains enfants n'ont pas voulu dire je suis Charlie, mais une petite minorité. Hein, c'est pas peut-être 60 écoles sur 60 000.
Il y a aussi des établissements catholiques où les enseignants n'ont pas voulu faire la minute de silence parce qu'ils ne soutenaient pas nécessairement la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Donc les raisons confessionnelles qui ont conduit à certaines personnes à ne pas vouloir respecter cette minute de silence ne sont pas seulement issues d'enfants et pas seulement issues de personnes se revendiquant islam. Moi, j'étais amenée à intervenir plusieurs fois dans des lycées, dans des banlieues populaires parisiennes, et j'ai fait face à des lycéens qui m'ont effectivement demandé si dire je suis Charlie, ça voulait dire qu'on soutenait la ligne du journal.
Donc, symbolique.
Il y avait aussi une confusion. Ce sont des jeunes gens. Une confusion chez eux par rapport à une injonction dont ils n'arrivaient pas à traduire. Ils n'arrivaient pas à savoir s'il s'agissait de soutenir le journal ou simplement de s'opposer au terrorisme. Pour revenir à la question des valeurs, moi, je vous avoue que lorsque j'ai entendu notre Premier ministre Manuel Valls s'exprimer sur le burkini pour dire que le burkini était contraire aux valeurs de la République, j'ai vraiment cru tomber de ma chaise, parce que je pense que la stature d'un Premier ministre n'est pas celle d'opposer les valeurs de la République, qui sont le fruit de combats, de morts, de luttes multiséculaires, à un vêtement de plage. Je trouve vraiment cette affirmation, je la trouve absolument grotesque. Je trouve que ce n'est pas du tout le niveau d'un responsable politique de ce rang-là. Et quand on parle des valeurs, pour moi, on parle des droits humains. Et effectivement, les droits humains, c'est aussi ce qui nous permet de vivre ensemble et de cohabiter. Et encore une fois, je pense que le combat contre des vêtements n'est pas un combat essentiel aujourd'hui dans un contexte de crise économique.
Les hommes politiques ont exploité cette histoire pour des raisons politiques très, très, très politiciennes, électorales, etc. C'était comme indécent.
Alors, vous dites, mais ça nous ramène quand même à une question que nous n'avons pas tout à fait épuisée, qui est la question des femmes et peut-être aussi, plus généralement, du statut des femmes dans l'islam. Et j'y reviens, Tahar Ben Jelloun, parce que vous traitez cette question à plusieurs reprises dans votre livre « Le terrorisme expliqué à nos enfants ». Vous dites que les tensions qui secouent aujourd'hui le monde musulman s'expliquent par la condition qui est faite aux femmes. Tout tourne autour du corps de la femme. Au fond, dites-vous, c'est un problème de sexualité non résolu. Ce faisant, vous rejoignez Fethi Ben Slama, oui, le psychanalyste, dans ce livre « Déclaration d'insoumission à l'usage des musulmans ou de ceux qui ne le sont pas », il dit « L'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. » Vous diriez, Rokhaya Diallo, que le voile, la burqa et a fortiori le burkini, ça n'a rien à voir avec l'oppression des femmes.
C'est pas ce que j'ai dit.
Mais enfin,
ça n'avait pas plus à voir qu'avec que le talon aiguille ou la chirurgie esthétique.
Peut-être pas plus à voir avec le talon aiguille. Mais je suis en train de lire un livre très intéressant de Maguid Cherfi, l'ancien parolier du groupe Zebda, Ma part de Gaulois. Je le commence. Et ce Maguid Cherfi est un petit élève au départ, très doué, qui adore les classiques.
C'est un très bon bouquin, ça,
qui est toujours d'écrivain public, même dans sa cité. Et il subit la pression de ses camarades de classe, qui n'aiment pas le voir si bien avec les professeurs. Et moi, je croyais que les élèves, les bons élèves, étaient traités de bouffons. Eh ben non, il est traité de pédé. Donc on voit quand même qu'il y a une question de la virilité, là, qui se pose avec une force inouïe. Elle me semble liée quand même au statut des femmes dans le monde musulman. Ça n'a, à mon avis, rien à voir avec la coquetterie des femmes, le talon aiguille, la volonté d'être belle pour elle-même, pour les hommes, etc. Si c'est une aliénation, ce n'est pas une aliénation du même ordre. Et en tout cas, elle n'a pas la même conséquence, notamment sur les hommes.
Oui, absolument. Alors, pour moi, le critère absolu pour savoir si un pays est civilisé ou pas, c'est la condition de la femme. Dans certains pays, c'est la condition des animaux. Pour moi, c'est la condition de la femme. Or, dans nos pays arabo-musulmans, et je parle uniquement de la sphère à laquelle j'appartiens, malheureusement, la femme a toujours été maltraitée, mise de côté, elle est infériorisée même par la religion, dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui au Maroc, on est en train de se battre pour que l'héritage soit égalitaire entre l'homme et la femme, parce que la femme a droit à une demi-part et le garçon à une part entière, et on n'arrive pas à changer cela dans toutes les constitutions parce que c'est un texte du Coran. Et par ailleurs, ces femmes se libèrent. Et aujourd'hui, la société civile d'un pays comme le Maroc ou l'Égypte, cette société est tenue par des femmes. Elles sont les femmes qui se battent le plus. Les hommes ne se battent pas tellement pour les droits des femmes. Ce sont les femmes qui se battent elles-mêmes parce qu'elles savent qu'en face d'elles, il va y avoir des hommes qui vont profiter de toutes les lois qui existent pour les marginaliser et pour les exploiter, même sur le plan législatif.
Oui, en même temps, ils en profitent et ils en souffrent parce que oui. Le fait même que les femmes soient ainsi mises à distance, opprimées, surveillées, ça a évidemment un impact sur la vie des hommes et notamment
bien
sur
sûr.
Leur sexualité.
Mais, alors,
ça crée de la misère
alors là,
chez
alors,
le dominant lui-même.
Tout à fait. Alors là il y a un autre problème, enfin, c'est le rôle de la mère. La mère, et ça, c'est Germaine Tillion le raconte très bien dans Le Harem et les Cousins, la mère va faire du garçon le roi, le privilégié absolu, et elle va lui donner tous les pouvoirs contre ses sœurs et contre elle-même. Et lorsque le garçon va sortir dans la vie active, eh bien, il vient avec ce bagage dans le dos. Et le regard qu'il va poser sur la femme sera forcément un regard soit de dominant, soit de quelqu'un qui va se sentir inférieur et par conséquent va avoir une relation difficile avec la femme. Et cette relation va parfois se traduire par la violence ou par l'abandon. Et ça vient de l'éducation que nos mères ont donnée à certains de leurs garçons. Et ça, ce n'est pas uniquement d'aujourd'hui, depuis très 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 longtemps. La virilité vient de là. C'est-à-dire que tu dois être viril parce que c'est beaucoup plus loin, parce que tu vas venger ta mère qui n'a pas eu les droits qu'elle mérite. Alors toi, tu vas peut-être être l'expression de cette liberté que ta mère n'a pas eue. Alors c'est évidemment, sur le plan psychanalytique, c'est assez extraordinaire. Et on voit que derrière tout ça, il y a beaucoup de frustration. Et ce qui s'est passé à Cologne le 31 décembre, qui a été un désastre, parce que c'était malheureux de voir ces agressions sexuelles, parce qu'il y avait trop de frustration et qu'il s'était permis effectivement d'aller vers l'étrangère, parce qu'il y avait des Allemandes, et l'étrangère pour eux, la non-musulmane à l'étrangère, était licite, c'est-à-dire permis, on pouvait se permettre de l'agresser parce que c'était qu'une femme étrangère.
Alors moi, je me garderais bien de faire de l'essentialisme, d'autant plus que les viols sont une pratique malheureusement qui est encore beaucoup trop courante partout. Je pense qu'on ne peut pas attribuer des viols à la frustration masculine. C'est une violence qui, pour moi, ne peut pas être prétextée par cela. J'ai toujours beaucoup de difficultés à lier une culture avec des pratiques de violence. Votre analyse du monde musulman est celle qui vous appartient et elle est relative à votre expérience, mais enfin, du monde arabo-musulman, pardon. Mais je crois qu'il est important de rappeler que les Arabes, parmi les musulmans, ne représentent que 20% des musulmans dans le monde. 80% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Donc c'est vrai qu'on peut aussi avoir une vision déformée d'une pratique monolithique de l'islam si on la réduit à ce groupe. Même si je pense que les Arabes ne sont pas plus sexistes que les autres hommes. Pour ce qui est du livre de Majid Cherfi que je connais, la violence à l'égard des premières de la classe, pour moi, c'est pas quelque chose de spécifique à sa génération. Moi, j'ai lu Le Petit Nicolas, quand j'étais jeune, je me souviens d'Agnan. Agnan, il se prenait des droites par Eudes parce qu'il était premier de la classe et parce que c'était le chouchou. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas uniquement lié au quartier populaire.
Enfin, on ne se fait pas traiter de pédé quand on aime les classiques.
Mais quel est le rapport entre cela et l'islam? Encore une fois, il s'agit de jeunes qui sont issus d'un quartier populaire toulousain, mais je ne crois pas qu'ils soient liés à l'islam. Et je veux dire quelque chose sur les femmes. Je pense que c'est important de dire qu'il y a des femmes qui sont féministes et musulmanes qui travaillent justement pour faire avancer les choses. Je pense à une femme comme Anan Karimi, qui est doctorante, à cette imam danoise qui a permis à des femmes de diriger les prières, à Amina Wadoud, qui est une musulmane américaine qui a été la première femme à diriger une prière. Il y a beaucoup de femmes au livre de Zahra Ali qui parlent des féministes islamiques. Je pense qu'il faut aussi laisser la parole à ces femmes qui ont envie de montrer que l'interprétation du Coran a été faite pendant des siècles par des hommes et que l'interprétation féministe peut leur permettre d'avoir davantage de droits.
Non, une femme ne peut diriger que la prière d'autres femmes.
Cette femme-là, qui est imam, a proposé une interprétation qui était une interprétation féministe, qui l'autorisait à diriger la prière. Et je pense que ce sont des personnes avec lesquelles il faut dialoguer.
Non, mais des femmes, oui, mais pas des hommes.
Eh bien, elle s'est autorisée à le faire.
Non, moi,
au nom de l'islam.
Non, mais tant mieux pour elle. Mais pour une question.
Et elle se dit musulmane, et je pense qu'il faut engager un dialogue.
Écoutez, dans la mosquée et je sais pas dans la synagogue aussi, je pense que les femmes ne se placent pas dans le même espace. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, moi c'est
oui,
ce que j'ai constaté.
Oui, mais cette femme-là justement dit le contraire. C'est ça qui est intéressant, c'est que pourquoi c'est une femme qui travaille
parce
sur
que,
l'islam.
Parce que les hommes ont des désirs et les femmes sont là.
Les femmes aussi ont des désirs, monsieur.
Non, absolument, mais bien sûr.
Sauf que
les hommes peut-être se contrôlent moins que les femmes.
Et c'est pour cela que
il y a eu séparation.
Je pense que c'est une excuse qu'il se donne.
Non, mais de toute façon, vous parlez d'essentialisme, Rokhaya Diallo, mais il n'empêche que si l'on veut traiter un problème, il faut bien en reconnaître l'existence. Or, il me semble qu'à chaque fois qu'un problème est ici évoqué, décrit, pointé, vous dites « attention, c'est pas comme ça, ce n'est pas juste ». Il y a un problème, me semble-t-il, du statut de la femme parmi les musulmans. On peut même se dire que la réaction la plus violente à l'égard de l'Occident n'était pas une révolte contre le colonialisme dans ce qu'il a d'oppressif, mais contre une certaine idée de la liberté. J'en veux pour preuve les propos de Saïd Koupt, qui était le grand théoricien, le grand doctrinaire des frères musulmans, et il s'est radicalisé après un voyage en Amérique parce qu'il était choqué, indigné, parce qu'il appelait cette liberté bestiale qu'on nomme la mixité, ce marché d'esclaves nommé émancipation de la femme. Et quand il est retourné en Égypte, eh bien, il a mis toute sa ferveur au service d'une interprétation très radicale de l'islam. Donc, il y a là un problème que des femmes musulmanes traitent, mais regardons-le en face et ne parlons pas d'islamophobie, d'essentialisation ou d'amalgame à chaque fois qu'on essaye d'en prendre conscience.
Alors, pour l'instant, je n'ai pas évoqué le terme d'islamophobie, mais effectivement,
non,
je pense que
d'essentialisation.
Voilà, je pense que l'islamophobie est un problème qui existe et je ne comprends pas pourquoi cette personne, en fait, des frères musulmans, serait représentative d'un islam beaucoup plus large. Encore une fois, je tiens à dire que l'islam, c'est une religion qui est présente sur tous les continents et qu'elle n'est absolument pas incarnée par une personne radicale qui veut restreindre. Je vois pas en quoi, en fait, sa voix est plus légitime que celle des femmes dont je vous ai parlé. Moi, j'aimerais bien que vous, monsieur Finkielkraut, vous invitiez ces femmes pour qu'elles vous parle de leur vision de l'islam.
Eh bien, je le ferai dès que j'en aurai l'occasion. Pour finir, Tahar Ben Jelloun.
Pour finir, moi, je trouve que l'islam est une religion monothéiste qui vaut les autres religions. Elle a sa beauté, elle a ses valeurs, et qu'il ne faut pas les détourner pour en faire un programme, une idéologie politique de terreur. Et c'est pour cela qu'on parle effectivement de peur d'islam, parfois même de haine de l'islam.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Rokhaya Diallo. Merci Tahar Ben Jelloun. Je rappelle le titre de votre livre, Le terrorisme expliqué à nos enfants. Il est publié aux éditions du Seuil. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est réécoutable et podcastable pour toujours. La semaine prochaine, le titre de l'émission sera Le prix du silence. Mes deux invités seront Alain Corbin et Jean-Michel Delaconté. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.